Deutsche Welle. Afrique 7 jours.
Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro d'Afrique 7 jours du dimanche 8 avril 2018. Et j'ai à mes côtés deux confrères de la rédaction Afrique francophone de la Deutsche Welle. Bonsoir Ali Farad.
Bonsoir.
Allez, bonsoir Wendy Bashi.
Bonsoir Eric Topona.
Alors, vous êtes là, hein, tous les deux, pour des tâches diverses. D'abord, Ali Farad, vous avez parcouru la presse allemande et vous y avez relevé beaucoup de sujets liés à l'actualité africaine. Que sont-ils ?
Oui, il sera question de la volte-face du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sur l'accord signé avec l'ONU concernant la réinstallation de migrants africains vers des pays occidentaux. On reviendra également sur la mort de Winnie Mandela, ainsi que sur le jugement, le début du procès de Jacob Zuma en Afrique du Sud.
Merci, tous ces thèmes seront développés dans l'Afopresse. Alors Wendy Bashi, vous vous êtes occupé cette semaine de la rubrique Blogosphère et vous recevez...
Cette semaine, Eric Topona, nous recevons une jeune et brillante blogueuse franco-tchadienne. Il s'agit de Sandrine Nagertiga. Elle se définit comme étant une jeune fille passionnée, mais surtout une afro-optimiste. C'est d'ailleurs le nom qu'elle a donné à son blog spécialisée en communication digitale. Elle accompagne également de jeunes entrepreneurs dans leurs projets. Eric, toutes ses activités gravitent de près ou de loin du côté du continent africain.
Voilà l'interview avec Sandrine Nagertiga qui sera diffusée donc dans la rubrique Blogosphère, un entretien à ne pas rater. Afrique 7 jours, c'est aussi et surtout le kaléidoscope des principaux sujets qui ont fait la une de l'actualité africaine cette semaine. L'affaire du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy par la Libye en 2007 continue de défrayer la chronique. Dans une interview qu'il a accordée mardi à la Deutsche Welle, Mofta Missouri, le tout dernier interprète de Muammar Kadhafi, confirme que l'ex-dictateur libyen a bien financé la campagne de Nicolas Sarkozy à hauteur d'une vingtaine de millions. On écoute Mofta Missouri.
Il y avait des négociations, des discussions entre la partie française, c'est-à-dire des gens de la campagne électorale de Sarkozy, Claude Guéant et Brice Hautefeu et Taki Eddine, qui étaient venus en Libye pour parler avec la partie libyenne conservée. À la faveur de cette discussion entre les trois Français et les trois Libyens, ça a donné lieu à un document. Et ce document porte le chiffre de 50 millions. Quand le document est arrivé au bureau du guide, le guide a donné son accord à ce qu'on verse une vingtaine de millions de dollars. La preuve existe. Un juge instructeur m'a appelé une fois et je lui ai confirmé ce que je viens de vous dire.
Au Tchad, le cyberactiviste Mouyadine Tchadjadine Babouri a été remis en liberté à l'issue d'une courte audience. C'était jeudi au tribunal de grande instance de N'Djamena. Arrêté et placé sous mandat de dépôt le 17 octobre 2016, Tchadjadine Babouri, neveu du président tchadien Idriss Déby Itno, était poursuivi pour atteinte à l'autorité de l'État, à la sécurité nationale, mais aussi intelligence avec un mouvement insurrectionnel pour avoir posté sur Facebook des vidéos critiquant la mauvaise gouvernance du régime de son oncle. Après un an et demi d'instruction, le juge a donc finalement requalifié l'infraction en délit de diffamation. Maître Midai Gerimbay est le président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme et il entend aider la victime, Mouyadine Tchadjadine Babouri, à porter plainte contre ses bourreaux.
Monsieur Mouyadine a été torturé dans différentes concessions privées par des autorités connues. Ce qu'il n'a pas encore vu, c'est la mort. C'est des tortures inexplicables. Et toute personne qui commet cette infraction doit passer devant le juge, qu'il soit autorité politique, militaire ou administrative. Donc nous allons aider ce monsieur à saisir le juge. Il viendra le jour où chacun va s'expliquer devant la loi.
« Terminons par la République démocratique du Congo où les élections générales de décembre 2018 se préparent activement par les différentes parties. Vendredi dernier, la Commission électorale nationale indépendante a publié le fichier électoral. Pour sa part, l'opposition émet beaucoup de réserves quant à la fiabilité de ces listes. Mieux, cette opposition ne croit même pas en l'organisation d'élections justes et transparentes. Félix Tshisekedi est le nouveau président de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti fondé par son père.
Très sincèrement, je ne crois pas en l'organisation d'élections cette année. Je ne pense pas que M. Kabila soit la personne habilitée à les organiser. Il y a une certaine pression internationale, une certaine demande aussi à l'intérieur ici du pays pour dire voilà, nous voulons des élections, ben nous nous lançons dedans. Il ne faut pas non plus donner prétexte aux kabilistes pour que nous n'ayons pas d'élections. Cette CENI est totalement inféodée à Kabila et donc il ne faut pas donner l'occasion à Kabila de dire voilà, on ne peut pas, à cause de la demande de l'opposition, on ne pourra plus organiser les élections en 2018, il faudra les reporter en 2019. Je connais mes compatriotes, je sais de quel côté est leur volonté et croyez-moi, ils ne vont sûrement pas voter pour un kabiliste. Étienne Tshisekedi avait gagné les élections en 2011, tout le monde le dit. Nous croyons que l'UDPS est le plus grand parti de ce pays et le parti qui a le plus grand nombre de militants. Il l'a prouvé en 2011, il le prouvera en 2018.
On retrouve comme promis Ali Farhad pour l'Afropress. Ali, vous commencez par l'actualité en Israël.
Oui, l'Israël qui a suspendu mardi dernier un accord conclu avec l'ONU pour la réinstallation de migrants africains vivant en Israël, donc vers des pays occidentaux. Un accord qui prévoyait la réinstallation de 16 000 Soudanais et Érythréens vers des pays comme l'Allemagne, l'Italie ou encore le Canada. En échange, l'État hébreu s'engageait à donner un titre de séjour à un nombre équivalent de personnes devant rester sur son territoire. Un accord qui n'aura finalement tenu que quelques heures. En effet, dès mardi, le Premier ministre israélien annonçait que le deal tombait à l'eau. Netanyahou s'est mis à genoux face aux critiques venant de la droite, titrait d'ailleurs le Neue Zürcher Zeitung cette semaine. En effet, la droite israélienne pense que donner un titre de séjour à des réfugiés africains menacerait l'identité juive du pays, tandis que de nombreux votants souhaitaient une expulsion pure et simple des migrants. L'annulation de cet accord est le dernier exemple d'une série qui montre pour beaucoup à quel point Netanyahou est faible désormais, pointe la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Plus aucun membre du cabinet ne suit son premier ministre. Sur la question migratoire, aucun ministre n'a soutenu Netanyahou. Le premier ministre qui se trouve désormais face à un dilemme, il ne peut plus revenir sur le premier accord, tandis qu'une grosse partie de la population, de la gauche israélienne aux rabbins orthodoxes, fait appel, elle, à l'histoire. En effet, les expulsions de migrants auraient commencé en même temps que les fêtes de Pessah, qui sont sans rappeler le départ des Juifs de l'Égypte, la libération de l'esclavage et la fuite vers Israël via le Sinaï.
Autre sujet longuement évoqué dans la presse allemande, Ali, la mort de Winnie Mandela.
L'Afrique du Sud a perdu sa mère de la nation glamour, a titré le Berliner Zeitung. L'ancienne travailleuse sociale était, tout comme son ancien mari Nelson Mandela, une icône de la lutte anti-apartheid. Sauf qu'avec le temps, les deux personnalités se sont de moins en moins comprises. Il faut dire que dans sa lutte contre le régime injuste, elle s'était écartée du chemin de Mandela. Alors que le leader de la cause était en prison, Winnie, elle, était devenue la chef d'un club de football à Soweto dans les années 80. Un club dont les membres étaient devenus sa garde rapprochée, qui semait la terreur dans le sud-ouest de Johannesburg. À sa sortie de prison, Nelson Mandela avouera ne pas reconnaître cette personne qui était devenue si seule avec le temps. Le couple finira par se séparer en 1996 après 38 ans de mariage. Tantôt perçu comme icône de la liberté, tantôt comme personnage clivant, Winnie Mandela ne laissait personne indifférent, rappelle die Tageszeitung. Elle est décédée lundi à l'âge de 81 ans.
L'Afrique du Sud, où Jacob Zuma a refait parler de lui.
L'ancien président de la nation arc-en-ciel dans le procès pour corruption a commencé. Un procès qui devrait durer de nombreuses années. Pour Die Tageszeitung, Jacob Zuma a construit sa carrière sur la corruption. Il n'y a qu'à voir ses liens avec l'entreprise Gupta, dont l'influence n'a cessé de croître avec le temps. Zuma lui-même ayant donné un droit de parole à l'entreprise familiale d'origine indienne quant aux attributions de postes dans les différents cabinets. L'ancien président et ses proches encaissant de larges bénéfices en contrepartie. Et malgré la déchéance et la démission du président en février dernier, celui-ci compte encore de nombreux soutiens, notamment dans sa région d'origine, le KwaZulu-Natal. C'est là-bas, à Durban, lieu du procès, que ses supporters se rendront pour chanter et danser comme toujours, indique la Tageszeitung.
Et puis, parlant toujours du président Ali Farhad, la Sierra Leone a un nouveau chef d'État.
Tout à fait, il s'agit de Julius Maada Bio, le candidat de l'opposition qui s'est imposé avec presque 52% des suffrages. Un changement de pouvoir qui est une valeur en soi, note la Süddeutsche Zeitung. En effet, son prédécesseur, Ernest Bai Koroma, qui venait d'effectuer deux mandats consécutifs, ne pouvait plus se représenter comme le veut la Constitution. Et le candidat du gouvernement en place, Samora Camara, s'est donc incliné à la régulière. Néanmoins, s'il a été élu, Julius Maada Bio inquiète quelque peu, rappelle le quotidien de Munich. Il faut dire que son nom est étroitement lié à deux tentatives de putsch qui avaient fonctionné en 1992 puis en 1996. En outre, la tâche qui l'attend est colossale puisque Julius Maada Bio s'est engagé à réviser les concessions minières et les avantages fiscaux accordés aux compagnies étrangères, à construire des hôpitaux et à instaurer une éducation primaire et secondaire gratuite. Bref, tout un programme.
Merci Ali Farhad.
Merci.
Blogosphère.
Elle l'a promis et elle a tenu parole. Wendy Bashy est restée avec nous. Rebonsoir Wendy.
Bonsoir Eric Topona.
Alors on vous laisse en compagnie de votre invitée, hein, la blogueuse franco-tchadienne Sandrine Nagartiga.
Bien sûr Eric, et je lui ai posé toute une série de questions. La toute première, c'est qu'elle puisse se présenter. Écoutez Sandrine Nagartiga.
Sandrine Nagartiga est une jeune femme déterminée, passionnée, par ce qu'elle entreprend et qui est surtout très reconnaissante d'être en vie. Donc, en effet, j'ai 26 ans, 27 ans en mai 2018. De parents tous deux tchadiens, j'ai eu la chance d'être née au Tchad, d'avoir grandi en Côte d'Ivoire, donc environ une dizaine d'années passées à Abidjan, et d'avoir vécu dès mes 13 ans jusqu'à aujourd'hui en France. Donc j'ai une triple culture qui n'a fait que m'enrichir. Et cependant, j'ai eu la chance de me lancer dans cette formidable voie qu'est l'entrepreneuriat. Déjà en étant à l'école, en lançant une start-up qui n'avait pas marché, puis plus tard en créant ma propre structure, et aujourd'hui je ne cesse de faire évoluer mes activités. Par ailleurs, donc j'ai également fondé un média social 100% participatif qui s'appelle Entreprendre l'Afrique, qui a pour but en quelque sorte de montrer une autre face du continent, celui d'un continent qui bouge grâce aux actions de sa jeunesse, des jeunes pas forcément connus, parfois même pas du tout, mais qui réalisent d'incroyables choses pour faire bouger leur communauté. Et ce, dans tous les domaines. Donc, l'originalité de ce média, c'est que on fonctionne à travers des contributeurs, donc qui sont présents localement, qui portent la voix de ces jeunes, qui font bouger le continent. Donc, je peux dire en quelque sorte que c'est un média vu par les jeunes et pour les jeunes. Et pour terminer, donc, je dirais que Sandrine Nagartiga est aussi amoureuse de voyage, puisque j'ai baigné dedans toute ma vie, jusqu'à aujourd'hui, et surtout amoureuse de mon continent d'origine, l'Afrique, qui est à la fois pour moi un mystère et une richesse inestimable, tant au niveau de sa population que de ce qui la compose. J'aime également découvrir les gens et l'on dit surtout de moi que je suis très souriante. C'est sûrement l'une de mes plus grandes forces.
Vous êtes donc une jeune entrepreneure et blogueuse franco-tchadienne. Expliquez-nous dans les détails ce que vous faites.
En effet, donc j'ai créé une structure qui propose ses services aux entreprises dans les domaines de la communication et stratégie digitale. Une structure qui aujourd'hui vise à être modifiée puisque je fais également évoluer ma stratégie en interne au fil du temps et au fil des opportunités saisies. Mais je conseille, forme et accompagne les entreprises, les personnalités et autres personnes désireuses dans leur stratégie digitale. Pour parler plus concrètement, j'ai été amenée par exemple à accompagner une structure dans sa mise en place d'une stratégie digitale afin de mieux communiquer et fidéliser ses clients. Cela passe notamment par faire un audit stratégique de l'existant via sa présence web, intégrer sa stratégie digitale dans la stratégie de communication globale de la structure, définir les objectifs de la stratégie, identifier les clients, choisir les canaux digitaux qui vont être pertinents, construire un plan éditorial, définir les ressources interne et externe via le budget qui a été alloué pour les actions, le choix des indicateurs de performance, le suivi, voilà. Donc ce sont un peu toutes ces choses-là que je propose aux entreprises ou aux personnes désireuses de le faire. Pour la seconde partie, je dirais aussi que je fais du conseil en community management ou du social media management, où là je conseille et je gère les pages réseaux sociaux de personnalités politiques, sportives, françaises que j'ai eu à faire. Et la troisième partie, c'est la rédaction de contenu web pour les entreprises ou personnes. Ceci est surtout dû au fait que je sois blogueuse, puisque j'ai eu la chance d'être parmi les blogueurs émérites de Mondoblog RFI de la promotion 2016. Mondoblog qui est la plateforme de blogueurs de l'espace francophone de la radio France Internationale.
Vous définissez comme étant une afro-optimiste tout en ayant la tête bien fixée sur les épaules. Serait-ce de la modestie ?
Ce n'est en aucun cas de la modestie. C'est l'état d'esprit dans lequel ma mère nous a toujours élevés, mon frère et moi, et qui me suit donc jusqu'aujourd'hui. Pour moi, la vie est une véritable montagne russe. Et avec les hauts et les bas, rien n'est acquis tant qu'on vit. Et donc, il faut toujours garder la tête froide et rester sereine, quoi qu'il arrive, pour être sûr de continuer à avancer. Donc, il est vrai que je suis une afro-optimiste. Ça, c'est un terme qui m'a été donné par mes amis et mes proches, parce qu'ils n'arrêtaient pas de m'écouter parler de l'Afrique en bien, d'être tellement positive que des fois, et ça pouvait en saouler certains. Mais c'est parce que je crois en cette Afrique, surtout en Afrique centrale notamment, qui peut rebondir et changer le cours de l'histoire. Mais bien souvent, la réalité nous rattrape plus vite que prévu. Donc, je pars du principe que voilà, c'est bien d'être positive, ça aide à vouloir impacter, impulser du changement. Mais il faut aussi beaucoup travailler en silence, en souterrain pour œuvrer à ce changement et plutôt que de seulement le clamer haut et fort uniquement. Donc c'est vraiment cela. Moi, je suis afro-optimiste, oui. Et ça, je pense que rien ne pourra le changer parce que je suis très positive et en ce qui concerne l'Afrique, je suis plus que jamais positive. Mais voilà, la réalité fait qu'il faut parfois aussi accompagner cette positivité-là par des actions concrètes, d'où le besoin d'avoir la tête bien fixée sur les épaules.
Passionnée de communication et de digital, je suis de ceux qui savent que tout est possible, à ceux qui rêvent, à ceux qui osent, ceux qui travaillent et qui n'abandonnent jamais, écrivez-vous. Pouvez-vous nous expliquer ?
Je me suis inspirée de la citation de Xavier Dolan, un réalisateur, producteur et scénariste québécois, qui disait, je cite, de la vraie citation, « Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais ». Et j'ai trouvé que cette citation, qui m'a vraiment marquée, me définissait très bien. Pour moi, c'est mon leitmotiv et je m'en inspire aussi souvent que possible dans mes actions et ce, quotidiennement. Ma passion pour le digital et d'une façon générale pour ce que j'entreprends me motive davantage et me pousse toujours à croire en mes rêves. Même à vouloir oser proposer des choses et innover tout en travaillant et n'abandonnant jamais. C'est pour cela que aujourd'hui, voilà, je trouve qu'il est très très important de rêver, au fait, parce que parfois des personnes nous interdisent de rêver ou on trouve que rêver c'est pas possible, les personnes sont trop terre à terre, nous disent qu'il faut arrêter de rêver, ça va jamais le faire. Non, au contraire, les rêves c'est gratuit, ça n'enlève rien dans le compte en banque, au contraire, donc du coup il faut rêver, on a le droit de rêver, mais il faudrait que nos actions, après une fois avoir rêvé, soient aussi en mesure de pouvoir relever ce challenge-là. Donc moi, je trouve qu'il est très important de rêver, très très important de rêver, mais il faut aussi croire en ses rêves, il faut oser aussi, parce que c'est ainsi qu'on pourra confronter ses rêves à la réalité, et si on travaille et qu'on ne lâche rien, on ne se détourne pas de notre but, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
Vous accompagnez aussi depuis 2015 les porteurs de projets de start-up dans l'élaboration de leurs projets, avec un focus sur la stratégie digitale. J'imagine que c'est une tâche qui n'est pas du tout facile.
Rien n'est facile sur cette terre. Et c'est même cela qui rend la vie, pour moi, encore plus captivante et riche. En effet, j'ai eu à travailler pour un client qui souhaitait redéployer le dispositif Groupement de Créateurs, donc qui était un dispositif national dans le département des Hauts-de-Seine cette fois-ci. Et ce dispositif était vraiment magique parce qu'en fait, il permettait, comme tous les autres dispositifs d'accompagnement, il permettait aux personnes de 16 à X années désireuses de se réorienter, étant en rupture socio-professionnelle, à la retraite ou sans emploi, de revenir sur le marché du travail via l'entrepreneuriat. Et en fait, mon objectif premier était de ne pas faire d'eux uniquement de futurs chefs d'entreprise, mais plutôt de les accompagner dans leurs projets professionnels et personnels, en utilisant les mêmes approches, les mêmes techniques que celles de la création d'entreprise ou d'activité, mais vraiment les aider à réavoir confiance en eux et à se dire qu'ils étaient possibles soit de faire une formation dans le domaine apprécié, ou soit tout simplement de se réorienter dans un domaine qu'ils ont toujours rêvé bien avant et pour lesquels ils se disaient pourquoi pas eux. Et donc, dans cette activité-là, je me suis aussi permise d'inclure dans mes activités de sensibilisation, de conseil, d'accompagnement et de formation. En fait, j'ai ajouté la dimension digitale pour leur permettre de se familiariser avec cette thématique-là et surtout de saisir les opportunités que le numérique pouvait leur offrir. Une véritable expérience, très très riche, surtout humainement et aussi professionnellement. Et ça a été très gratifiant, et ça l'est toujours, hein, d'avoir des personnes qu'on a accompagnées tout le long et qui se lancent dans leur activité ou qui se sont lancées dans une formation dans le domaine de leur choix cette fois-ci, qu'on leur a pas imposé quelque chose, et qui le réalisent avec succès, mais surtout avec passion. C'est très très humain, croyez-moi, et pas évident du tout, c'est vrai. Ce qui était intéressant, c'est que chaque personne est unique, et l'offre d'accompagnement, l'offre de conseil, l'offre de formation était également unique. Donc c'était quasiment de sur-mesure, c'était très très gratifiant, mais ça demandait beaucoup de motivation, de passion, de courage et aussi d'heures de travail. Donc en tout cas, vraiment, c'est pas une tâche facile, encore une fois, mais c'est tellement gratifiant et je continue tant bien que mal de proposer si possible mon aide pour des personnes qui souhaitent réaliser des projets. Pas de façon complète comme l'offre que j'avais eue, mais en apportant aussi mon humble expérience, parce que moi j'ai eu la chance de faire mes deux dernières années de master dans une école supérieure de commerce qui proposait une spécialité en entrepreneuriat en dernière année. Et c'est là d'ailleurs que j'ai eu le goût de l'entrepreneuriat et j'avais lancé une première start-up qui n'avait pas marché. Mais ouais, on a vraiment travaillé toutes les structures de l'entreprise, on a acquis des retours vraiment très intéressants, des expériences enrichissantes de chefs d'entreprise qui étaient nos professeurs. Et je me suis permise légitimement de proposer aussi ce que j'ai appris via des activités à des personnes qui en avaient besoin. Donc c'est vraiment très gratifiant.
Avez-vous d'autres projets ?
J'ai de nombreux projets, surtout en Afrique. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai mes proches qui me surnomment Madame Projet. Parce que j'ai l'impression que je n'ai que ça. Je devrais même peut-être créer une structure où je propose des projets, des idées aux personnes, mais très honnêtement, pour revenir un peu en sérieux. J'ai d'abord mon projet d'incubateur média pour lequel j'y travaille jour et nuit, et que je rêve de lancer au Tchad ou ailleurs, dans un autre pays d'Afrique, si le besoin se fait ressentir. Tout dépendra encore une fois des conjonctures économiques et sociales qui se présenteront, des opportunités, et de l'offre de besoins aussi. Donc ça, c'est un projet qui me tient à cœur et pour lequel vraiment je continue à travailler, à apporter une petite pierre à l'édifice à chaque fois. Il y a aussi Entreprendre l'Afrique pour lequel je travaille aussi beaucoup à son évolution très prochaine. Donc on est toujours en cours de recherche de partenaires, tant financiers, institutionnels, médias, médiatiques. Donc voilà, on a vraiment ce gros projet là aussi pour lequel je souhaite vraiment que Entreprendre l'Afrique devienne un média aussi de référence, qui ait sa place notamment en Afrique et à la diaspora. Il y a aussi le projet social que j'ai lancé, qui découle de la campagne Régler comme elle que j'avais lancée en mai 2017. Et qui avait pour but de briser les tabous autour des menstruations chez les filles et les femmes en Afrique. Donc une campagne qui m'aura vraiment permis de commencer à éclore un peu ce sujet-là, et pour lequel aujourd'hui donc je souhaite faire développer, donc pousser un peu plus qu'une campagne digitale et apporter de vraies actions via le numérique, hein, mais bien entendu en ayant aussi des vraies actions sur le terrain en fonction des pays cibles qu'on aura identifiés. Et il y a aussi un autre projet plus axé sur les filles et les femmes, les jeunes femmes, qui allient toujours le numérique, parce que c'est, vous l'aurez compris décidément, que c'est mon cheval de bataille, mais aussi le numérique, allie le numérique à l'éducation. Projet pour lequel je vais pas en dire plus pour l'instant, donc c'est une stratégie, c'est une volonté de ma part. J'y travaille toujours très très dur, hein, en coulisses, et j'espère pouvoir les lancer très prochainement. Et vous serez dans tous les cas informés.
Auriez-vous un mot pour nos internautes et nos auditeurs?
Pour moi, une des plus grandes sources de bonheur, c'est également la capacité à être reconnaissant, aussi souvent que possible. Alors, je tenais tout sincèrement à remercier chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent chaque jour, que ce soit des personnes qui me connaissent, qui ne me connaissaient pas auparavant, qui le font maintenant, qui me suivent sur les réseaux sociaux ou autres, qui ont entendu parler de moi et qui, par un petit message ou un petit appel, m'encouragent. Ça me motive vraiment, 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 et ça me donne encore envie d'aller plus loin. Cependant, je terminerai par ceci en disant que quand on dit que seul le travail paye, on le martèle et on l'a toujours martelé, c'est quelque chose à prendre vraiment au sérieux. Si on veut un quelconque changement dans notre vie, dans ce monde, que ce soit un changement personnel ou professionnel, il faut déjà commencer par savoir exactement ce qu'on veut et surtout par se retrousser les manches et travailler. La vie est beaucoup trop courte, hein, et Et c'est maintenant qu'il faut œuvrer pour quelque chose si on est amené à partir, parce que au moins on aura impacté positivement ce monde. Ce sont ces petites briques-là qui, au final, deviennent de véritables fondations solides et on en a besoin. On a besoin vraiment de laisser une trace positive dans ce monde-là et de pouvoir le construire. Donc, encore une fois, comme moi, quand on revient de très très loin, on peut vraiment aller très très loin aussi. Donc, il faut vraiment, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant qu'il faut faire ses preuves, il faut travailler, il faut impacter positivement ce monde pour que même si on n'est plus de ce monde-là, qu'on dise que voilà, cette petite brique a apporté de grandes choses dans ce monde.
Quel est votre tout récent coup de cœur musical?
Je n'ai pas vraiment de style musical particulier, hein, car j'aime beaucoup toutes les musiques, surtout celles qui viennent d'Afrique. Mais ces temps-ci, il faut dire que j'écoute souvent deux styles de musique. Donc, ceux des chanteurs camerounais anglophones, là, donc en particulier Mister Léo ou Loco, que j'aime beaucoup. Et sinon, il y a aussi le Zouglou, que j'aime beaucoup, qui est un style musical venant de Côte d'Ivoire, que j'écoute quasiment tout le temps. Et que ce soit en chemin, donc dans la voiture, ou allant en déplacement, ou dans l'avion, voilà. Ou pour moi, ce sont des qui ont des paroles peut-être parfois très engagées ou révolutionnaires, mais surtout qui transmettent des messages d'espoir au-delà des sonorités qui donnent envie de danser. Enfin, par ce petit message, je tenais très sincèrement à remercier la rédaction entière du magazine Afrique 7 jours pour cette formidable vitrine qu'il offre aux personnes comme moi, qui leur permettent de mettre en avant leurs activités, leurs personnalités, leurs actions. Et je trouve que c'est ce genre d'initiative qui ne pourra que apporter une pierre à l'édifice dans la construction de cette Afrique qui nous est chère. Donc, grand merci encore une fois, longue vie à toutes ces actions prometteuses et qui méritent encore une fois d'être vraiment promues. Donc, merci beaucoup et à très vite, pour de nouvelles aventures.
Voilà la blogueuse franco-tchadienne Sandrine Nagartiga. Et vous me disiez, Wendy Bachi, hein, que Sandrine souhaitait écouter une chanson qui lui tenait à cœur, hein, c'est ça?
Oui, Eric. Alors, Sandrine nous a recommandé la musique d'un jeune Tchadien qui s'appelle Magouloir Tampele, anonyme, marge d'action, son nom d'artiste. Et le titre, Kété, qui veut dire aller de l'avant en Sahara, l'une des langues parlées dans le sud du Tchad.
Non, on ne va pas plier, 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 plier. On va toujours se débrouiller. Plier, 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 plier. Un jour ça va payer. Plier, 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 plier. Mais si un problème tu as oublié, on ne voit que Kété. On ne vise que Kété. Nous on pense que Kété. Et notre devise c'est Kété. À chaque jour suffit sa peine. On a compris donc on se cherche. De l'or autour de nous, alors pourquoi fouiller le ciel? On ne fait que se débrouiller chaque jour, on va chercher le pain.
Voilà, c'est avec cette belle sonorité que va bientôt s'achever Afrique 7 jours. Et Wendy Bachi, vous êtes venue ce soir avec un proverbe africain que vous souhaiteriez partager avec nos auditeurs.
Oui, Eric Topona, c'est bien cela. Et ce proverbe, voici ce qu'il dit. Quand la panthère ne parvient pas à attraper un gibier, elle dit qu'il est petit.
Voilà, un très joli proverbe. Merci encore une fois, Wendy Bachi, d'être passée ici, hein, dans ce studio.
C'est moi qui vous remercie, Eric Topona.
Et au micro, donc, Eric Topona. À très bientôt sur les antennes de la DW, la radio internationale allemande.
Si t'aimes, viens voir chez nous, yeah. On joindra les deux bouts, yeah. Ce qui compte, c'est l'amour. On ne voit que Kété.